Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 10 nouveautés sur les écrans Manceau. Une pointe d'amour, tu ne mentiras point, Ghostlight, Les Linceuls, Les Règles de l'Art, Thunderbolts, Little Jaffna, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, Les Indomptés et Les Esprits Libres. Allez, on part sur des musiques qui sont soit dans Une pointe d'amour, soit dans Les Règles de l'Art. Et on va faire un petit blind test pour notre ami Pierre. Je pense qu'il devrait arriver à trouver le premier titre que l'on entend dans le film Une pointe d'amour. C'est le titre qu'on entend sur le générique de fin.
Bill Withers.
Exactement. Enfin, Grover Washington Jr. et Bill Withers.
Ah oui.
Just the Two of Us. Exactement. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two.
Just the two of us.
Just the Two of Us, Bill Withers au chant et Grover Washington Jr. au saxophone. C'est un titre que l'on entend à la fin du film Une Pointe d'amour, ça tombe bien. On commence justement par parler de Une Pointe d'amour. C'est un film qui est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Son réalisateur, Pierre, je ne m'en souviens pas.
Alors, c'est Maël Piriou.
Voilà, c'est ça, c'est son premier long métrage, réalisateur et scénariste du film. Pierre, à toi.
Alors, c'est avec Julia Piaton, Grégory Gadebois et Quentin Dolmer.
Exactement.
Durée 1h30. Le synopsis, Mélanie, avocate, atteinte d'une maladie incurable, a décidé qu'il était temps de profiter de la vie. Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un périple vers l'Espagne pour explorer enfin leur sensualité dans une maison close. Les voici à bord d'un van délabré, conduit par Lucas, un chauffeur bourru sorti de prison la veille. Contrairement à Mélanie, Benjamin ne semble pas pressé d'arriver et fait d'ailleurs tout pour prolonger cet improbable voyage à ses côtés. La revue de presse, Le Figaro avec Olivier Delcroix. Drôle, touchant, pudique, plein de tendresse sur un sujet grave, une pointe d'amour pique le spectateur en plein cœur. Paris Match avec Christophe Carrière. Un savant mélange d'humour mordant et d'émotion dont le liant est une réjouissante bienveillance. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Une comédie sentimentale gonflée qui s'illustre de bout en bout par une subtilité rare, un humour cash mais délicat, de bonnes ondes d'humanité autour du handicap, mais pas seulement, puisqu'il est avant tout question d'amour. Le Parisien avec Catherine Ball. Une pointe d'amour aborde la question de la sexualité des handicapés, mais ici, on n'est pas dans le film sociétal réaliste et cru. Plutôt dans la bluette légère et plaisante, on se laisse cependant cueillir par l'émotion à la fin de l'histoire, même si elle est attendue, grâce à l'interprétation tout en délicatesse de Julia Piaton. Et enfin Télérama avec Frédéric Strauss, le voyage réserve de jolis moments, le ton décontracté et plutôt franc du collier sur le handicap se fait malheureusement très sage et assez plat à mesure que se développe une histoire romantique entre l'avocate et son ami de toujours, tétraplégique.
Exactement. Une pointe d'amour, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce sous la forme d'une comédie romantique, un film qui parle des personnes en fauteuil roulant et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour avoir une vie amoureuse et sexuelle comme tout le monde. Alors donc, on a Mélanie qui est avocate, handicapée, atteinte d'une maladie incurable. Alors ça, c'est un truc comme trop, hein. Franchement, ça n'a pas... Bon. Bon, bref, son meilleur ami est Benjamin, lui aussi avocat, mais qui n'a jamais plaidé et vit toujours ses parents à 30 ans passés. Mélanie a décidé que tous deux iraient en Espagne pour aller dans une maison close. Là-bas, c'est légal, hein, il faut le rappeler, hein, pour faire l'amour, chacun, pour la première fois. Pour les accompagner, ils font appel à Lucas. Lucas, c'est un client de Mélanie. Je rappelle que Mélanie est avocate, donc c'est un client de Mélanie, délinquant, bourru et au grand cœur, que Mélanie engage donc... comme une sorte d'auxiliaire de vie et chauffeur en même temps, pour qu'ils amènent donc à destination dans son vieux van. C'est le début d'un road movie où chacun va progressivement découvrir les deux autres. Alors certes, le scénario a quelques trous, quelques invraisemblances, hein, c'est pas toujours parfaitement maîtrisé, mais la qualité des trois interprètes, Pierre les a cités, fait que le film est agréable, les personnages sont attachants, et cela traite un sujet... autour de l'amitié, du désir, de l'amour entre ces trois personnages, avec pudeur et tendresse, d'où à l'arrivée une comédie un petit peu douce amère, aux répliques souvent mordantes, quand même, qu'on a plaisir à voir, mais pas non plus vraiment une comédie marquante, et il y a une fin prévisible dès le départ, bien entendu. Donc c'est moyen, mais bon, on peut éventuellement attendre que ça passe à la télévision, parce que ça passera à la télévision... C'est coproduit par je ne sais plus quelle chaîne. Une pointe d'amour, Colisée, pardon, Méga CGR et Pathé Quinconce. Tu ne mentiras point, cette fois-ci, c'est au cinéaste. C'est un film de Tim Milans, je pense que ça se dit comme ça, c'est un réalisateur belge, Tim Milans. Et le film est proposé donc avec deux séances par jour au cinéma, les cinéastes. Auparavant, Tim Milans a réalisé... des inédits, soit un franchement inédit, soit un autre envoyé en VOD. Sinon, il est auteur d'épisodes de séries comme Peaky Blinders, Code 37, etc. Donc, auteur, réalisateur, scénariste belge, Tim Milans. Pierre, parle-nous, non pas de Tim Millens, mais de Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point.
Oui,
tu ne mentiras point.
1h38 la durée.
Oui.
Avec Cillian Murphy, Aileen Walsh et Emily Watson. Le synopsis, Irlande, 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret longtemps dissimulé va le confronter à son passé et au silence complice d'une communauté vivant dans la peur. La revue de presse, Cinématiseur avec Aurélien Alain. La précision de l'écriture et de la mise en scène sert une prestation splendide de Cillian Murphy. Ouest France avec Philippe Lemoine. Un film salutaire avec Cillian Murphy. Télérama par Samuel Douer. Cillian Murphy, au jeu très retenu, tout en silence et gestes douloureux et poignants. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Porté par une mise en scène sobre, une atmosphère oppressante et un jeu tout en retenue, le film explore le poids du silence et de la culpabilité dans une société gangrenée par l'omerta. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpech. La mise en scène verse un peu trop dans l'austérité et le misérabilisme au point d'annihiler l'émotion. Et enfin Paris Match avec Fabrice Leclerc. Baigné dans la pénombre, volontairement lent et lourd jusqu'à l'excès, le film finit par perdre ses fidèles à force de distance et de flashbacks bien appuyés.
Tu ne mentiras point, c'est au cinéaste avec 2 séances par jour et en VO comme il se doit. Donc sur un sujet qui a déjà été traité et de façon bien plus passionnante, c'est celui des Magdalene Sisters. Alors c'est quoi ces Magdalene Sisters ? Ce sont des filles mères envoyées dans des pensionnats ou des couvents tenus par des sœurs pour cacher leur grossesse et leur nouveau-né et qui étaient exploitées comme des esclaves, notamment à des travaux de blanchisserie. Et ça, ça se passe en Irlande et là, on est en 1985 et c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Un film très lent, allusif, qui privilégie souvent le hors-champ à travers l'histoire de Bill Furlong, un vendeur de charbon, modeste entrepreneur, brave type, marié, 5 filles, vivant dans une petite ville d'Irlande, donc en 1985, et qui, au cours de sa tournée de livraison, découvre la situation de ces jeunes filles à travers l'exemple de Sarah. Alors là, on a quand même un petit problème, c'est qu'il a quand même l'air de livrer ce couvent depuis bien longtemps, et il découvre ça, passons, c'est un petit détail, passons. Le film est entrecoupé de flashbacks sur l'enfance de Bill. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir à 100% saisi clairement la situation d'alors dans ces flashbacks, si ce n'est que l'histoire de ce Bill Furlong et celle de sa mère semble faire écho à ce qu'il découvre, mais qui me semble quand même moins dur que ce que vivent ses filles, à moins que je n'ai pas bien tout compris, mais je pense quand même avoir compris. Mais bon, ça aurait pu être un peu plus clair. C'est un film très lent, qui décrit surtout une atmosphère, celle de l'époque, d'une Irlande complètement sous la coupe du clergé catholique qui contrôlait la société et qui ne tenait pas du tout à ce qu'on se mêle de ses affaires. Une Irlande où beaucoup de gens vivaient dans la misère, ou quasiment dans la misère, comme on le découvre dans le film. Je dois reconnaître que le film ne m'a pas convaincu, loin de là, je répète, trop allusif, très lent, austère, trop refermé sur lui-même, à l'image de son personnage principal, ce Bill Furlong, taiseux, sans doute bon père et bon mari, bon chrétien aussi, touché par l'histoire de ses filles, qui lui rappelle sa mère. Donc l'acteur, c'est Cillian Murphy, il est très bon, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais sur ce sujet, je répète, revoyez Magdalene Sisters, c'est quand même bien plus passionnant. Ça s'appelle Tu ne mentiras point, et c'est tôt. Cinéaste, tout comme au cinéaste, on peut aller voir Ghostlight, c'est un film américain co-réalisé par Kelly O'Sullivan et Alex Thompson. C'est le premier long métrage pour Kelly O'Sullivan. Alex Thompson avait réalisé en 2019 Saint Frances. Je ne sais pas, ça me paraît inédit comme film. Les deux sont des acteurs, réalisateurs et scénaristes. Le film dure 1h55. Dan travaille sur les chantiers de voirie à Chicago et ses environs. Un peu par hasard et à l'insu de sa famille, il intègre une troupe de théâtre amateur qui met en scène Roméo et Juliette. Peu à peu, la tragédie qui se monte sur scène commence à lui renvoyer le reflet de sa propre vie. Voilà, ça c'est l'histoire. La presse, Xavier Le Harper Lopes, la première qualité de cette fiction à l'humour tendre et acide est de rendre à ces ignorés la dignité qui leur est due, et il conclut par le terme une découverte. Jean-Baptiste Morin dans Les Inoccupables demeure des acteurs et actrices inconnus mais incroyables, dirigés par un couple dans la vie, Des personnages, du plus petit au plus important, très bien écrits, drôles, émouvants, humains. Ghostlight n'en fait jamais trop dans le coup de théâtre, laisse ses protagonistes exister, vivre, exprimer leur joie et leur douleur jusqu'au bout. Cécile Murie dans Télérama déclare que le film est délicat et attachant. Et Mathieu Macheret dans Le Monde, le film vaut avant tout pour le portrait tendre qu'il dresse de la classe moyenne américaine. Mais à voir dans le théâtre une sorte de régulateur universel, il cède trop facilement à l'angélisme, aux facilités psychologiques et vire au compte de fées sociales. Nous n'avons pas vu Ghostlight, une seule séance par jour pour ce film au cinéaste. Allez, deuxième pause musicale, cette fois-ci on l'entend dans le film La Règle de l'Art. Pierre va reconnaître ça du premier coup, pratiquement à coup sûr.
Richard Cochante.
Voilà, le coup de soleil.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des sapins. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je veux que tu viennes me faire coller, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je veux faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier, il fait très beau. On peut ramer, la mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face. Et visiter ton paradis, mais tu n'es pas là.
Richard Cocciante, le coup de soleil, évidemment, on se croirait sur Nostalgie, comme très souvent dans Clap, ça c'est le point, les vieux animateurs. Et ça va pas s'arranger avec les titres suivants. Hein. Ah. Bon, alors, on part maintenant des linceuls. Les linceuls, il est proposé aux cinéastes, mais je crois bien qu'il est proposé aussi au Pâté Quinconce, et je suis sûr qu'il est proposé aussi au Méga CGR. C'est un film de David Cronenberg. David Cronenberg, réalisateur, scénariste, producteur, acteur canadien. C'est pas un perdreau de la semaine, il est né en 1943. Il a commencé à en faire des films seulement en 69, mais auparavant, il avait fait des courts-métrages et des téléfilms. On va faire toute sa filmographie. Il y a bien une bonne vingtaine de films, mais on va citer quand même les plus marquants. D'abord, il a commencé par le cinéma d'épouvante, d'horreur, hein, avec des films comme en 74, Frisson, ou 79, Chromosome 3, 81, Scanners, 82, Vidéodrome, 83, Dead Zone. Le film qu'il a fait connaître du grand public, c'est La Mouche, en 86. Et puis ensuite, eh bien, ça devient de plus en plus intello, le cinéma de David Cronenberg. Déjà avec 88, Les Faux-Semblants, avec Jeremy Irons, Geneviève Bujold. 91, Le Festin Nu. 93, Mr. Butterfly. 96, Crash, avec James Spader, Holly Hunter. 99, Existence, avec Jude Law. 2001, Spider, avec Ralph Fiennes. 2005, History of Violence, avec Viggo Mortensen et Maria Bello. 2007, La Promesse de l'Ombre, avec Viggo Mortensen. Et puis 2011, Dangerous Method. 2012, là, ça devient vraiment complètement abscon. Cosmopolis, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. 2014, Map of the Stars, avec Julianne Moore. Et le pire de tous, pour moi, en 2022, Les Crimes du Futur, avec Viggo Mortensen et Léa Seydoux, où j'étais à la limite de sortir de la salle tellement ça m'ennuyait. Oh. Allez, Pierre, à toi pour les linceuls.
Durée 2 heures, pile.
Oui.
Avertissement, ce film est interdit au moins de 12 ans. Avec Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. Le synopsis, Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chairs disparues dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. La revue de presse, L'Obs avec Guillaume Loison. Une œuvre crépusculaire et une réflexion sur le deuil et la mort de zéro. Les Échos avec Adrien Gombeau. Entre le fantastique et l'espionnage, l'auteur de Crash propose une réflexion sur la perte. Un autoportrait poignant et curieusement drôle. Les Inrecuptibles avec Olivier Joyard. Rigoureux, voire austère, mais aussi d'un humour pince sans rire assez féroce, le film enregistre le deuil de son héros tout en le situant dans la marche du monde. La Tribune du Dimanche avec Alexis Campion. Quelque part entre deuil et complot, thriller high-tech et farce macabre, David Cronenberg triture notre imaginaire du côté d'une sensualité ténébreuse dont il a le secret, froide, malsaine, aseptisée. Le Figaro avec Olivier Delcroix. Contrairement à son précédent long métrage, Les Crimes du Futur, Les Linceuls s'affirme comme une œuvre intimiste, un film funèbre à la poésie troublante qui raconte la douleur incommensurable de ceux qui restent. Le Parisien avec Renaud Baronian. Ça fait un peu de mal de l'écrire, mais il s'agit sans doute du moins bon film de la longue carrière du Canadien David Cronenberg et on comprend pourquoi il est reparti bredouille de la compétition cannoise l'année dernière. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier. Une œuvre inaboutie qui n'en est pas moins saisissante par son audace et sa dérangeante beauté. Et enfin Marianne, avec Olivier De Bruyne, un nouveau et décevant délire de David Cronenberg.
Voilà, donc ça s'appelle Les Linceuls, c'est proposé aux cinéastes avec, bien entendu, que de la VO aux cinéastes, et 2 séances par jour. C'est proposé au Pâté Quinconce avec de la VO et de la VF, et Omega CGR avec de la VF. Le film avait été présenté à Cannes en 2024, dont l'année dernière, et il ne sort qu'un an après. Ça, c'est pas très bon signe. Alors moi, j'ai jadis beaucoup aimé le cinéma de Cronenberg. J'ai beaucoup aimé certains films. Ce n'est plus le cas depuis ses derniers films, trop abscons pour moi. Eh bien, avec ces linceuls, on reste dans le droit fil de ses derniers opus. Voilà, je dois reconnaître que j'ai très vite décroché et sans doute même fait des micro-siestes, tant tout cela m'a paru fumeux et ennuyeux. Il s'agit donc de l'histoire de Karch, un entrepreneur inconsolable de la perte de son épouse et qui a inventé un curieux système de vidéo qui permet d'observer la décomposition du cadavre des êtres aimés à l'intérieur de leur tombe, filmé en permanence grâce à un procédé appelé « The Shrouds », les linceuls en français. Alors pourquoi pas, mais très vite, le film sur le deuil devient une sorte de gloubi-boulga. À la suite de la profanation du cimetière, un gloubi-boulga où se trouve donc... il des questions de complotisme, d'éco-terrorisme, d'agents russes, d'agents chinois. Bon, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien, c'est interminable, avec des tunnels de dialogue. Bon, bref, on retrouve les obsessions de Cronenberg pour les corps mutilés, ça c'est sûr, les histoires tordues d'adultère, les nouvelles technologies, notamment bien entendu l'intelligence artificielle, la paranoïa des personnages, tout ça c'est du Cronenberg, il n'y a pas de problème. Mais en se contentant de traiter le thème du deuil, Cronenberg tenait un sujet. Pourquoi aller le gâcher avec cette sorte de thriller, espionnage auquel on ne comprend rien? Alors, il paraît que le film a une résonance autobiographique, puisque Cronenberg a perdu sa femme et qu'il est inconsolable, et cela il y a quelques années. Il paraît aussi qu'il y a de l'humour, certains critiques l'ont souligné. Moi, je veux bien, mais alors c'est un humour très très macabre et au xième degré, parce que si on sourit parfois, c'est surtout à cause du grotesque de certaines situations. Je ne suis pas sûr que ce soit volontaire. Bref, je ne conseille pas du tout le film. Je ne suis pas d'ailleurs sûr que les cinéastes y croient tellement, ils l'ont mis dans la salle 3, et mercredi après-midi, bon, certes, il faisait très beau, on n'était que 3 dans la salle. Hein. Donc, bon, les linceuls, c'est vraiment à vos risques et périls. On passe à quelque chose de différent, les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film français de Dominique Baumard, réalisateur, scénariste. C'est un homme, hein. Dominique, ça aurait pu être une femme, mais c'est un homme. Il avait réalisé en 2016 un documentaire « Tu doutes, tu perds », inédit. Et 2021, « Les méchants » avec Roman Fraissinet. Ludivine Sagnier, c'était pas mal d'ailleurs, c'était assez drôle. Et puis les scénaristes de films comme Prosper, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, on a vu, enfin moi je ne l'ai pas vu, mais il est sorti au Colisée il n'y a pas longtemps, le jeune Imam, et puis aussi l'un des scénaristes du fameux Bureau des légendes sur Canal+. Pierre va nous parler des règles de l'art.
Durée 1h34 avec Melville Poupeau, Sofiane Zermani et Julia Piaton. Tiens, encore
oui,
elle.
Encore elle, oui.
Le synopsis, Jonathan, expert en montres de luxe au quotidien monotone, voit sa vie basculer lorsqu'il s'associe à Eric, receleur et escroc. Fasciné par le train de vie d'Eric, Jonathan perd toute mesure. Tout s'accélère quand, pour répondre à une commande d'Eric, Joe, cambrioleur de génie, vole 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris en 2010. Dès lors, les trois hommes sont entraînés dans une spirale incontrôlable. La revue de presse, Elle, avec Marguerite Beau, une comédie polar savoureuse. Le Parisien, avec Pauline Condrasson. L'image est savamment travaillée, poussant loin l'esthétique de certaines scènes aux couleurs et à la lumière très soignée, clin d'œil au sujet même du film. Une belle énergie se dégage de l'ensemble, qui finit cependant par s'essouffler sur la durée. Le Journal du Dimanche, avec Barbara Théat. Dominique Baumard utilise des codes du polar pour trousser cette drôle de comédie aux envolées loufoques, mettant en scène un trio aussi désaccordé qu'explosif, porté par des comédiens en total lâcher-prise. Première, avec François Léger, les règles de l'art auraient pu pousser sans trop d'efforts les curseurs de la comédie, mais choisi de privilégier une certaine forme d'élégance à la drôlerie. Un angle plutôt malin pour raconter la folie latente, prête à jaillir de chacun de nous, pour peu que notre boussole morale n'indique plus du tout « a fait le Nord ». Télérama, avec Frédéric Strauss, une comédie de Dominique Baumard qui étonne et séduit. L'Obs, avec Xavier Le Herpeur, lointainement inspirée d'une histoire vraie, cette comédie de monte en l'air maladroit est servie par un enthousiasmant trio d'acteurs, une mise en scène ménageant de beaux moments suspendus, superbe nuit au musée, mais plombée par un scénario trop linéaire. La Tribune du Dimanche, avec Aurélien Cabrol. Malgré un casting mené tambour battant par Julia Piaton et Melvin Poupeau, cela ne fonctionne pas vraiment, et pour finir, c'est le spectateur qui se sent quelque peu volé. Les Inrecuptibles, par Jean-Baptiste Morin. Le film est plaisant, sympathique, mais la mise en scène ressemble un peu trop à une fiction de France 2 et ne parvient jamais à sortir cette histoire des limites de son scénario. Et enfin Marianne, avec Olivier De Bruyne, une comédie besogneuse sur le recel d'œuvres d'art.
Voilà, les règles de l'art, c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est une comédie policière inspirée d'une histoire incroyable mais vraie, l'histoire de trois types totalement dépassés par l'envergure de l'affaire dans laquelle ils se retrouvent impliqués. Il y a Joe, c'est un audacieux et très habile cambrioleur qui réussit à voler des toiles de maître, Fernand Léger, Modigliani, une nuit au musée d'art moderne de Paris. Il y a Eric, un receleur, volubile, à la tchatche intarissable, mais escroc de faible envergure. Et puis il y a Jonathan, c'est un expert en montres de luxe, au quotidien bien rangé, et qui se retrouve embringué dans l'histoire, on ne sait pas trop comment et pourquoi, sans doute parce que trop gentil, trop influençable et trop attiré par l'argent facile que lui propose Eric. Le film raconte leur maladroite tentative de fourguer ces tableaux inestimables, donc invendables, pour des types comme eux. Voilà. Outre cette histoire étonnante, eh bien, le film repose sur l'interprétation du trio de bras cassés, duquel se détachent Melville Poupeau et Sofiane Zermani, dans des rôles plus extravertis que celui de Steve Tiencheux. Un film de divertissement, un film plaisant, sans temps mort, tout à fait visible pour qui veut passer un moment agréable, donc on peut aller le voir, absolument. En plus, je pense que c'est climatisé maintenant, les salles, enfin, c'était climatisé hier, en tous les cas. Les règles de l'art, c'est au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Thunderbolts, là c'est au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce. Au Colisée, il y a de la VO de temps en temps, au Pâté Quinconce peut-être, j'en suis pas absolument sûr, certainement. Au Méga CGR, j'en doute, mais par contre, au Méga CGR, c'est en salle Ice et au Pâté Quinconce, c'est aussi en salle 4DX, donc ça doit secouer sévère. Thunderbolts, c'est un film de Jacques Schreier. Jacques Schreier, c'est un réalisateur-producteur américain. En 2012, il réalise Robot and Frank, avec Frank Langella et Susan Sarandon. Et 2015, La face cachée de Margot avec Clara Delevingne. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça en anglais, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, il y a à son actif des non très très nombreux épisodes de séries américaines. 2h06 pour ce film avec Florence Pugh, par exemple. Alors, Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Tagmaster et John Walker. Vous avez compris, il y en a 5. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentin Allegra de Fontaine, ses laissés pour compte, complètement désabusés, doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Ça, vous le saurez évidemment en allant voir le film. Car Olivier, dans 20 minutes, déclare qu'on a de superbes effets visuels qui achèvent de convaincre. C'est qu'elle a aimé. Renaud Baronian dans Le Parisien, outre des scènes d'action spectaculaires, un rythme qui ne mollit jamais, des effets spéciaux très performants. Ce premier bon Marvel depuis bien longtemps s'avère très réussi pour deux raisons. La première, c'est cette belle idée de transformer les personnages mal aimés en super-héros. La seconde, c'est de donner au récit une forte connotation psychanalytique. Le Figaro, Thunderbolts. Alors, je ne sais pas pourquoi Thunderbolts, il y a une astérisque. Je n'ai pas l'explication. Il y a toujours une astérisque à côté du terme Thunderbolts. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas beaucoup cherché non plus. Thunderbolts opte, quand cela est possible, pour des trucages manuels et des décors naturels. Ce côté naturaliste transparaît dans les performances sincères des comédiens à qui le scénario laisse des moments d'introspection pour explorer leur trauma. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Ces nouveaux Avengers, bras cassés mais solidaires, constitue la relève de la franchise, mais cet épisode d'introduction pêche par son rythme un peu laborieux et manque d'ambition. Thomas Grindorge dans Le Point de Thunderbolts, il n'y avait rien à attendre, si ce n'est un bon divertissement. Ça tombe bien, c'est enfin ce que le MCU, Marvel Universe, hein, nous a proposé après 2 années cinématographiques bien mortes pour la franchise, incapable de renouer avec l'engouement suscité jusqu'à Avengers Endgame. Cédric Page dans West France, ce nouveau Marvel tente de rompre la routine super-héroïque avec son équipe de mercenaires dysfonctionnels, évoquant leurs troubles mentaux entre 2 scènes d'action, de quoi renouveler un peu le genre dans ce 36e film, eh oui, 36e déjà, du Marvel Cinematic Universe. Léo Sussanto, Libération, avec sa nouvelle équipe de bras cassés super-héroïques, le studio creuse encore la veine cafardeuse de sa méga-franchise, adroit, mais trop sommaire. Frédéric Foubert dans Première, on en sort en ayant le sentiment d'avoir encore une fois vu un épisode intercalaire du MCU, certes élégamment troussé, mais qui sert surtout à rafistoler l'univers et annoncer le film suivant. Les arts occupent-ils, Théo Ribeton, le MCU continue de s'enfoncer dans les profondeurs du non-blockbuster vide et informe, avec un film qui disposait pourtant de quelques arguments pour s'en extirper. Ça fait bien longtemps que je ne vais plus voir les films de l'univers de Marvel au cinéma. J'attends de les voir à la télé, et quand je les vois à la télé, je me dis que j'ai bien fait de ne pas aller les voir au cinéma. Voilà, donc Thunderbolts, c'est au Pâté Quinconce, au Méga CGR et au Colisée, et vous pouvez le voir dans ces cinémas, éventuellement en version originale, mais il faut bien choisir votre séance. Little Jaffna. Little Jaffna, c'est un film français. C'est un premier film d'un réalisateur, Laurence Valin. Laurence L-A-W, c'est un homme. Laurence Valin, je pense qu'on dit Valin, pas Valine, il n'y a pas de raison. C'est l'acteur principal du film, le réalisateur et le scénariste. Auparavant, il avait réalisé un court et un moyen métrage. C'est son premier long métrage. On peut le voir uniquement au Méga CGR, durée 1h39. Je n'ai pas donné la feuille à Pierre parce que le nom des acteurs, à part Laurence Valin, ce sont des acteurs d'origine singalaise avec des noms impensables à prononcer. Et j'ai eu pitié. Donc, le quartier de Little Jaffna à Paris est le cœur d'une communauté tamoule vibrante où Michael, un jeune policier, est chargé d'infiltrer un groupe criminel connu pour extorsion et blanchiment d'argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka. Mais à mesure qu'il s'enfonce au cœur de l'organisation, sa loyauté sera mise à l'épreuve dans une poursuite implacable contre l'un des gangs les plus cachés et puissants de Paris. Mais la presse a plutôt aimé. Hein. Alex Masson dans Cinématiseur déclare que le film est une excellente surprise. Et j'opine d'ailleurs. La Croix, premier long métrage audacieux, Little Jaffna bouscule les codes du genre et propose un regard neuf sur la communauté tamoule portée par une mise en scène inventive et une interprétation intense. Étienne Sorin dans Le Figaro pour son premier long métrage. Valère n'a pas froid aux yeux. Son film a des gueules comme on n'en voit jamais dans le polar français. Son film a de la gueule, plongé à la fois brut et stylisé dans un monde rattrapé par la violence d'une guerre qui se déroule à 10 000 km de Paris. Oui, c'est au Sri Lanka. Et Olivier de Bruyne dans Les Échos, dans son surprenant premier film, Laurence Valin se met en scène dans le rôle d'un policier infiltré dans un gang de la communauté tamoule à Paris et il déclare que le film est à découvrir. Laurent Beauvallet dans West France, une plongée chez les tamouls à Paris qui déborde d'énergie. Yannick Veli dans Paris Match. Si le scénario comporte quelques trous, on pardonne tout devant l'énergie de la mise en scène, les visages nouveaux et le sens du rythme dont fait preuve l'acteur-réalisateur Laurence Valin. Guillaume Loison Lopes, d'un côté, Little Jaffna est porté par un enthousiasme viscéral, une soif de faire du moindre motif pittoresque, une sorte d'opéra urbain survitaminé. De l'autre, il reste bizarrement à la surface des choses, comme s'il s'empêchait d'octroyer à ses héros la profondeur et la singularité d'authentiques personnages de cinéma. C'est un peu dur. Renaud Baronnier, Le Parisien, si le film distille un rythme nerveux et efficace et nous fait partager de façon réussie le quotidien de ces Sri Lankais parisiens, le jeu de certains comédiens amateurs laisse parfois à désirer et la mise en scène tape à l'œil et déjà vue mille fois a tendance à fatiguer lors de certaines séquences. Eh bien, moi, je l'ai vu, Little Jaffna, parce que j'avais vu la bande-annonce et elle me tentait, cette bande-annonce de Little Jaffna. C'est un thriller et c'est plus spécialement une histoire d'infiltré, mais la grande originalité qui en fait un film vraiment intéressant, mais vraiment intéressant, c'est qu'elle se déroule dans la communauté tamoule de Paris. Alors, c'est une petite communauté, plutôt discrète, contenue dans quelques rues de la capitale, appelée Little Jaffna, d'où le titre, bien entendu. Mais cette petite communauté vit en relation permanente avec ceux restés au pays, parce que, par exemple, ils ont des boutiques et des restaurants, et dans ces boutiques, ces restaurants, eh bien, la télé est en permanence branchée sur des chaînes du pays, du Sri Lanka. Donc, dès le début du film, eh bien, on nous explique, grâce à quelques cartons, la situation de cette minorité vivant donc au Sri Lanka et dont les Tigres constituent une organisation séparatiste. Les Tigres tamouls veulent l'indépendance par rapport au reste de la population singalaise. Je pense qu'il y a une question d'ethnie, mais aussi une question de religion, parce que c'est Tamoul semble chrétien et les Sri Lankais sont hindous. Alors cette organisation des Tigres est classée terroriste en France et cette organisation lutte donc dans une guerre civile sanglante contre le pouvoir Sri Lankais. Alors la communauté tamoule en France, eh bien, vient en aide à ceux restés au pays, mais elle vient en aide en pratiquant toute une série d'actions illégales, rackets systématiques de tout le monde dans la communauté, les commerçants, etc., trafic de clandestins, blanchiment d'argent au profit des rebelles. Et c'est pour cela que la police française décide d'infiltrer dans le quartier un policier français d'origine tamoule, arrivé en France à l'âge de 4 ans avec sa grand-mère. C'est ainsi que le film permet donc de découvrir tout ce que je viens d'évoquer à propos de cette communauté dont le film nous fait découvrir les traditions, les us et coutumes, grâce à ce récit qui donne un film dynamique, coloré, avec des acteurs très impliqués, des acteurs qui ont de vraies gueules, hein. Beaucoup sont des non-professionnels. C'est un film sous tension. Alors évidemment, on regrettera par moments un manque de maîtrise, quelques ambiguïtés, pas forcément levées, d'ailleurs sans doute volontairement à la fin du film, quelques trous dans le récit, mais en tout cas, l'acteur-réalisateur Laurence Valin a un vrai savoir-faire, a un vrai style pour un premier film. Alors forcément, il ne pourra pas refaire plusieurs fois un film sur sa communauté, sinon ça va finir par lasser tout le monde. Mais en attendant, reconnaissons-lui un vrai talent dans sa façon de filmer, une façon coup de poing, avec un récit où se mêle donc histoire personnelle, contexte politique. Il y a un côté même quasi documentaire. C'est un film à découvrir absolument, je pense. C'est un film qui mérite d'être découvert, mais il faut aller au Méga CGR parce qu'il n'y a qu'au Méga CGR que le film est proposé. Allez, petite pause musicale. Bon, Pierre, je pense que tu vas reconnaître, en tous les cas, à coup sûr l'interprète, ça je ne fais aucune illusion. La chanson, oui, je pense quand même. Merci, merci, ça vient.
Oui, je vois la chanson, mais...
Si, si.
L'interprète.
Si, si, ça vient.
C'est Françoise Hardy.
Voilà, c'est bien. Avant qu'elle parle. Avant qu'elle chante, c'est bien.
Avant qu'elle chante.
Le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. C'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Françoise Hardy, Le temps de l'amour, on entend le titre dans Une pointe d'amour, mais on entend aussi Françoise Hardy dans le film Les règles de l'art, avec un autre titre moins connu qui s'appelle Où va la chance. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le passer. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, c'est un film qu'on peut voir au cinéaste, avec deux séances par jour. C'est un film de Bogdan Mureșanu. C'est un réalisateur, scénariste, producteur roumain. C'est son premier long métrage. Attention, le film dure 2h18. 20 décembre 1989, la Roumanie est au bord de la révolution. Les autorités préparent les festivités du Nouvel An comme si de rien n'était, ou presque. Mais le vernis officiel commence à craquer. Dans l'effervescence de la contestation, six destins vont se croiser au fil d'une journée pas comme les autres, jusqu'à la chute de Ceausescu et de son régime. La revue de presse Fabien Baumann dans Positif pour son premier long métrage Bogdan Mureșanu réalise le film qui manquait sur la révolution roumaine et il est passionnant. Vincent Ostria dans L'Humanité, une mini-fresque pleine de rires amers et de larmes givrées. Aurélien Cabrol dans La Tribune Dimanche, émotion et rire sont au programme au service d'un propos qui jusqu'au bout ménage une forme de suspense. Baptiste Thurn dans Le Journal du Dimanche parle d'une tragicomédie exigeante mais réussie. Olivier Le Brun dans Les Échos, cette fiction palpitante révèle un auteur talentueux et corrosif. Thierry Chasse dans Première, c'est fin, dominé par un sens de l'absurde imparable et accompagné par une réalisation au format 4 tiers, traduisant l'enfermement de ses personnages avant de s'élargir au 16/9 comme une métaphore de la liberté dans une ultime ligne droite de 20 minutes au rythme du Boléro de Ravel, où images d'archives et fiction ne font plus qu'un, un vrai feu d'artifice final. Théorie Beton, Les Inrecuptibles, ce nouvel an joue la montre par l'accumulation de sous-intrigues chorales qui ne lui apportent pas toujours beaucoup. Mais son tout dernier acte vaut presque à lui seul d'être vu, tant il parvient à filmer quelque chose de très difficile, car totalement ineffable. Fabrice Leclerc dans Paris Match, parfois didactique, sûrement trop long, le film n'en est pas moins excitant dans son récit vengeur du quotidien d'un régime communiste, comme une cocotte minute sur le point d'exploser, à la fois terrifiant et vivifiant. Qu'en penses-tu, Pierre ?
Ah ben, je vais faire un petit peu de mal là aux critiques. Alors 2h18, donc pour moi qui ai du mal avec les films qui dépassent les 2h, c'est long. Mais encore en plus c'est gonflant. Alors là c'est vraiment très long. Oui, je sais, les critiques sont plutôt bonnes, mais ce qui me rassure, c'est que les avis spectateurs sont quand même en dessous des critiques presse, d'après ce que j'ai vu sur les sondages. En fait, donc, on suit divers personnages en alternance constante, avec beaucoup de dialogues et peu d'action, donc pour moi, ennui. Le film se veut comique, annoncé comme comédie dramatique. Oui, bof, l'humour est très léger, pas vraiment drôle, donc... On attend en fait le dénouement qui arrive en fin de film, donc là je suis d'accord avec certaines critiques, la révolte de la population roumaine, peu de temps avant Noël 89, avec le renversement du régime totalitaire et de son dictateur, fait historique qui mêle image du film et aussi image réelle d'époque. Pour moi, hormis le final, donc beaucoup d'ennuis quand même.
Bon, eh ben, ça s'appelle ce nouvel an qui n'est jamais arrivé.
Oui.
Les Indomptés, c'est proposé par le cinéma Pathé Quinconce. C'est un film réalisé par, tu vas me le dire Pierre ?
Daniel Minahan.
C'est ça, Daniel Minahan, réalisateur scénariste, qui a son actif des très nombreux épisodes de séries, de Six Feet Under, Grey's Anatomy, Game of Thrones, vous voyez. Hein. Et puis, jusqu'à maintenant, il a réalisé en 2001 un film qui s'appelait Série 7, inédit. Et en 2019, Deadwood, le film, qui ne paraît pas avoir été non plus distribué sur les grands écrans. Pierre, Les Indomptés, c'est à toi d'en parler.
Durée 2 heures, avec Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi et Will Poulter. Le synopsis, Muriel et son mari Lee démarrent une nouvelle vie en Californie lorsqu'il revient de la guerre de Corée. Rapidement, l'équilibre de leur couple va être bouleversé par l'arrivée du charismatique Julius, le frère de Lee, un flambeur au passé secret. Un triangle amoureux se forme, mais Julius décide de suivre Henry, un jeune joueur de cartes dont il est tombé amoureux. Ébranlée par ce départ et plus éprise d'indépendance que jamais, Muriel trouve un exutoire dans les courses de chevaux et l'exploration d'un amour qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La revue de presse, Télérama avec Chloé Delos et Ray. Formellement très soignée sans être novatrice, rétro mais assez pop pour ne pas être passéiste, cette adaptation du roman de Shannon Pufall pose un regard tendre sur une génération engluée dans l'atmosphère de l'après-guerre de Corée aux États-Unis, tiraillée entre le matérialisme du rêve américain et le fantasme d'une échappée belle sur laquelle elle est prête à tout miser. Le Monde avec Boris Bastide, avec ses lents mouvements de caméra, sa nostalgie pour l'esthétique des années 50, que l'on retrouve aussi bien dans l'élégance des vêtements, les chansons ou les décors, et ses éclairages soignés, Les Indomptés baignent formellement dans un beau classicisme corseté qui étouffe quelque peu les aspérités de ses personnages. L'Obs avec Nicolas Chaleur, un mélodrame que l'on croirait d'époque, touchant de classicisme désuet, gagné par la mollesse et les clichés. Première avec Frédéric Foubert, les comédiens, pleins de visages bien-aimés, composent des personnages attachants, mais à cause de cette mise en scène cadenassée, échouent en partie à faire ressentir la passion censée flamber en eux. Trop sages sont ces indomptés. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, trop timide, décousu, souvent artificielle dans ses rebondissements, ce drame sentimental est tout juste sauvé par son casting talentueux et sexy en diable. Et enfin, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech. Cette chronique, certes singulière et ambiguë, part dans tous les sens, si bien qu'à multiplier les ellipses et les pistes, on ne sait plus du tout où le réalisateur veut en venir.
Ça s'appelle Les Indomptés, c'est proposé par le Pathé Quinconce. Je crois qu'il y a une version originale de temps en temps, mais pas tout le temps. Hein. Voilà, donc je ne l'ai pas vu, Les Indomptés. Voilà, donc c'est au Pathé Quinconce, uniquement Pathé Quinconce. Et enfin, pour être tout à fait complet. Dernier film à l'affiche cette semaine, dernière nouveauté, c'est au Colisée un documentaire qui s'appelle Les Esprits Libres de Bertrand Hagenmüller. Bertrand Hagenmüller a réalisé, réalisateur, scénariste et directeur de la photo, a déjà réalisé au moins 2 documentaires en 2016, Les Pieds sur Terre, co-réalisé avec Baptiste Combray, et 2019, Prendre Soin. Donc, de quoi est-il question dans ce film d'une heure 34 ? Les Esprits Libres, c'est l'histoire d'une folle aventure où patients atteints de la maladie d'Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique unique faite de théâtre, de musique et de poésie. Dans cette grande maison ouverte, l'accompagnement prend une toute autre forme. Plus de blouses blanches ni de couloirs aseptisés, mais des esprits libres et bien vivants, d'où le titre. Eugénie Barbeza dans l'Humanité, dans Les Esprits Libres, le dernier volet de la trilogie de Bertrand Hagenmüller sur l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le documentariste suit une résidence artistique singulière où des patients se préparent à jouer une pièce de théâtre. Boris Bastide, composé uniquement de scènes souvent touchantes, saisi comme en immersion, ce microcosme un peu foutraque, Les Esprits Libres explorent le jeu trouble entre la réalité et la fiction, induit par la mémoire défaillante et les effets de la pratique artistique sur la maladie mentale, sur la santé mentale. Lucie Chiquer, dans Première, en prouvant que la maladie d'Alzheimer peut rimer avec joie et sérénité, le sociologue Bertrand Hagenmüller signe un film de grande tendresse. Alors, rimer avec joie et sérénité, pour avoir connu la maladie d'Alzheimer dans mon entourage, c'est pas forcément la joie et la sérénité. Mais enfin, bon, passons. François-Xavier Richard, Télérama, une parenthèse presque enchantée pour les soignants qui, en laissant tomber les blouses blanches, loin des couloirs blafards des EHPAD, semblent retrouver un sens à leur métier. Le réalisateur et sociologue Bertrand Hagenmüller filme cette villégiature avec délicatesse et toujours à bonne distance. Il nous montre que notre accompagnement est possible. Nous n'avons pas vu non. Les Esprits Libres proposer, attention, généralement une seule séance par jour au cinéma Le Colisée. Allez, petit blind test pour finir, avant de nous annoncer les films la semaine prochaine. Celui-là, s'il ne reconnaît pas, Pierre, je le jette par la fenêtre. Forcément, il le connaît, ça.
Phil Collins ?
Non.
Ah non, c'est l'original,
ben
c'est
oui.
Les Supremes.
Exactement.
Ah oui.
Eh bien, c'est sur Diana Ross et les Suprêmes, You Can't Hurry Love, qu'on entend dans le film Le Point d'Amour, que je vais vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. On commence par un film qui sera au cinéaste, Rumours, Nuit Blanche, au sommet, une petite comédie, Ange et compagnie, je l'ai vu à l'avant-première, c'est assez charmant. Ensuite, il devrait y avoir De Mauvaise Foi, enfin, il devrait y avoir, c'est sûr, il va y avoir avec Pascal Demolon, Philippe Duquesne, une comédie française là aussi. Les Musiciens, ça sera au cinéaste, ça a l'air pas mal, ça, les Musiciens. Coca Chicas, un film avec des actrices françaises dans une histoire de trafic de drogue. Et puis, il y aurait d'autres films que ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, pour cette semaine, ce que je peux vous annoncer pour le 7 mai. Pierre, qu'est-ce que tu as apprécié ? Rien du tout cette semaine, c'était la vie et bon,
vraiment.
Pas vraiment.
Ah non, j'ai pas pu en voir hier parce que j'avais pas de transport.
D'accord. Mmh. Eh ben, moi, je peux dire que j'ai apprécié Little Jaffna. J'ai pas du tout détesté les règles de l'art. Une pointe d'amour, ça peut se voir. Voilà. Mais bon, c'est pas une grande semaine cinématographique. Voilà. Ben, on se retrouve sur Radio Alpa 107.3 FM la semaine prochaine dans Clap, comme il se doit.
Au revoir.
Au revoir.